Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
On les appelle les brouteurs. Ce sont des professionnels de l'escroquerie sentimentale en ligne ou du chantage sur Internet. Ils agissent surtout depuis la Côte d'Ivoire pour les francophones et le Nigeria pour les anglophones. Le mot « brouteur » vient d'Abidjan, explique Isabelle Ducret, qui a réalisé une enquête sur ce sujet pour TV5 Monde. Parce que d'un côté, il y a ceux qui broutent, c'est-à-dire les gars qui arnaquent, et de l'autre, les moutons qui se font tondre. Un réseau de Nigérians a été démantelé aux États-Unis en août dernier et 89 Ivoiriens ont été arrêtés en 2018, mais le phénomène est loin de s'être tari. Car en Côte d'Ivoire, les brouteurs sont souvent des vedettes qui bénéficient d'une certaine immunité et s'exposent sur les réseaux sociaux sans grande retenue. Leur popularité vient de ce qu'ils distribuent une partie de l'argent escroqué à leurs complices et autour d'eux. Le plus fameux d'entre eux, un certain commissaire 550, est millionnaire. On le voit dans une vidéo YouTube distribuer des liasses de billets en boîte de nuit. Il parraine aussi des grandes cérémonies et il a son fan club. En attendant, brouter est un travail à temps plein, en ligne, sur Internet, qui consiste à trouver une victime, à créer la romance, à mettre la victime en confiance et à l'envelopper dans ses filets jour et nuit. Parfois, raconte l'un d'entre eux, on peut être 3 ou 4 jours sans dormir. Il nécessite aussi des complicités auprès des banques et de la police. Selon les quelques chiffres disponibles, les arnaques sentimentales en ligne se sont élevées en 2016 à 200 millions de dollars aux États-Unis et en Suisse, 140 cas ont été signalés à la police la même année. Tout de suite donc dans les pieds sur terre, celle-ci et d'autres arnaques en ligne avec quelques pauvres moutons, enfin plutôt des brebis et l'effet que ça leur a fait. Elles sont racontées par Anaël Verzou.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ma fille vient d'avoir 3 ans et avec mon conjoint, on s'est dit qu'on allait revendre quelques-unes de ses affaires trop petites pour elle. Il paraît que Vinted, ça marche plutôt bien. C'est une application, un peu comme Le Bon Coin, mais avec uniquement des vêtements. J'ai donc passé un dimanche entier à trier, laver, repasser des vêtements de bébé. Et puis j'ai pensé à ma veste en simili-cuir, cintrée, plutôt stylée, mais que je ne mets plus beaucoup. Hop, je prends 2 photos et je rentre les informations sur Vinted. Jolie veste, peu portée, 35 euros. Et je publie. Très rapidement, je reçois un message d'une femme intéressée. Elle s'appelle Chantal Baron. Elle m'écrit depuis les Pays-Bas. Et elle me demande si je suis d'accord pour qu'elle m'envoie un mandat de 35 euros. Je n'y vois pas d'inconvénient. Ça se complique quand elle m'explique que les 35 euros me seront donnés en main propre par un livreur qui, une fois devant ma porte, récupérera la veste. Bon, je ne prends pas beaucoup de risques. Et je lui envoie donc mes coordonnées, adresse et numéro de téléphone, pour le livreur. Le lendemain, je reçois un nouvel email de Chantal, mon acheteuse, qui cette fois me précise qu'elle vient d'envoyer le mandat par DHL, mais que je recevrai finalement un mandat de 135 euros et non de 35 euros. Les 100 euros de différence, ce sont des frais d'assurance que je devrais, dit-elle, lui rendre à la fin de la transaction. Le mail est assez confus. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Je lui demande de m'appeler. Et elle répond alors « Je suis sourde ». Me voilà devant un nouveau problème auquel je n'avais pas pensé, quand une minute après, je reçois un SMS d'un numéro en 07 que je ne connais pas et qui dit « Bonjour, nous bien sur la ligne de Madame Anaël Verzeau. J'ai votre enveloppe du mandat courrier de Madame Chantal Baron. Veuillez donc nous rappeler, merci. » Et c'est signé facture du service DHL. Je rappelle donc le numéro en 07 qui est censé être celui du livreur DHL qui apporte le mandat. Ma veste en cuir est dans son paquet, prête à partir. Et comme on ne se refait pas, j'enregistre la conversation.
Oui, allô? Nous sommes la direction du service PayPal. Et Chantal Baron est bel et bien votre cliente, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Alors, expliquez-moi, vous, elle a fait un mandat, elle a envoyé 135 euros en liquide, donc 35 euros pour la veste, plus 100 euros pour payer l'assurance.
Oui, pour payer l'assurance. Mais néanmoins, avant que vous rentrez en possession de vos fonds, vous devez tout simplement payer les 100 euros et recevoir 135 euros. Comme si aussi, de votre côté, vous payez aussi les frais d'assurance. Mais néanmoins, vos frais d'assurance sont déjà rajoutés au prix de votre attique. C'est-à-dire, les 100 euros que vous avancez sont remboursés aussi à la cliente. Est-ce que vous comprenez la situation?
Donc la cliente a payé 135 euros en liquide.
Oui.
Moi, je dois payer 100 euros.
Oui, oui. Vous devez payer 100 euros et ensuite recevoir 135 euros.
D'accord. Mais quelle est l'assurance pour que je donne les 100 euros? Enfin, qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas quelqu'un qui essaye de m'arnaquer?
Si je ne suis pas à 100 euros près, ok, madame, nous voulons tout simplement vous rendre ce qui est de droit, les 135 euros en possession maintenant. Raison pour laquelle je vous dis de payer les frais d'assurance afin que je puisse me rendre chez vous.
Mmh. Non, mais vous êtes qui? Vous êtes qui, monsieur? Pardon, vous êtes qui?
Je me nomme monsieur Thomas, le livreur facteur DHL. Et nous sommes en ce moment à proximité de votre localité.
Je ne comprends pas tout, mais l'essentiel, je dois avancer les soi-disant frais d'assurance, donc payer 100 euros à ce monsieur. À ce stade, j'ai à peu près renoncé à vendre ma veste, mais pas à me défendre. Est-ce qu'on peut se rencontrer, Thomas?
Effectivement, une fois que vous aurez effectué le nécessaire de votre côté et vous faire parvenir les codes par RTMF à ce numéro, alors je me rendrai à votre domicile avec l'enveloppe dans laquelle il y aurait vos sous. Vous comprenez cela, madame?
Je ne vous donnerai pas les sous, Thomas. Je ne vous donnerai pas 100 euros.
Écoutez, madame. Nous voyons que vous essayez de pénaliser la transaction. Alors, si vous refusez de suivre la démarche, nous serons de l'obligation de lancer une poursuite contre vous pour abus de confiance et faute d'argent. Vous comprenez cela, madame? Si vous refusez de suivre la démarche, alors Interpol va se rendre à votre domicile, vu qu'en ce moment, l'appel est enregistré par la police Interpol et la gendarmerie nationale. Vous comprenez cela, madame?
Vous savez que Interpol, ce qu'ils font, vous savez, c'est l'Organisation internationale de police criminelle.
Effectivement.
Ah oui. Effectivement. Donc là, en fait, vous dites que je suis criminelle, là. Je suis carrément une criminelle. Allô?
Oui.
Oui, vous adressez à une criminelle, là. Allô? Vous savez ce que je vais faire, moi, de mon côté? Je vais vraiment appeler la police.
Effectivement, vu que l'appel est en ce moment enregistré, veuillez vous rendre à la police pour faciliter la démarche afin de mettre la main sur vous puisque vous essayez de pénaliser la transaction. Nous vous informons que nous venons à peine faire parvenir tous vos coordonnées à la police de votre localité. Ok?
Monsieur, je vais vous signaler à la police, je préfère vous prévenir. Hein. Vraiment. Hein. Tiens, c'est bizarre, il a raccroché. Je vais quand même faire le signalement à la police.
Madame, bonjour.
Oui, bonjour, je vais vous voir parce que je voulais porter plainte pour être présente.
Très bien.
Bonjour.
C'est malheureux, c'est comme ça.
Bon, merci beaucoup.
Au revoir.
Je sors du commissariat de police, où j'ai été reçue par une policière très sympathique. À peine j'avais commencé à lui raconter mon histoire, qu'elle a tout de suite parlé d'escroquerie. Elle m'a aussi parlé de grands réseaux. Elle m'a dit que c'était des bandes organisées, qu'ils escroquaient des personnes comme moi depuis des années, que les services de police avaient du mal à les coincer, que c'était d'abord très difficile de retrouver la personne par son numéro de téléphone, car ces personnes prennent des cartes prépayées. Pour les mails, c'est très difficile aussi parce qu'ils sont envoyés depuis l'étranger. De la même façon, les transactions bancaires sont faites dans différents pays. Selon elle, le mieux pour que ma plainte aboutisse un jour était de la transmettre à la direction centrale de la police judiciaire. Eux avaient les moyens d'enquêter. Ma plainte, donc, a été enregistrée sous la référence escroquerie 190DCAOABF le 5 novembre 2019. À 9h36, et elle a été transmise à la direction centrale de la police judiciaire, à Paris, 8e arrondissement.
France Culture, les pieds sur terre.
Escroquerie.
Bon, alors là, j'ai envie d'en savoir plus sur les escroqueries du web. Je trouve des informations. Il y a des articles et des forums avec des personnes qui témoignent.
Faux DHL, Le Bon Coin, comment ça marche?
Dès qu'une personne vous propose plus que le prix de départ, arnaque.
Marie, 1er octobre 2019, je viens de me faire avoir 1450 euros par UPS.
Juju.
Le 15 juillet 2019.
Ce n'est pas UPS qui t'a.
Je crois que je suis bien en train de paniquer à cause de cette arnaque. On me menace de procès.
Je poste alors un appel à témoins sur un réseau social et je reçois énormément de réponses. Françoise a été victime d'une arnaque basée sur une pyramide de Ponzi. Gaël a été escroqué de 5000 euros. Victor, on l'a fait chanter après qu'il se soit masturbé face à sa webcam. Et puis il y a aussi Rika et Catherine qui ont accepté de me raconter leur histoire. Je vais d'abord rencontrer Erika.
On était 8 copains et on voulait louer une maison donc à Osgore, dans le Pays Basque. On s'y est pris au mois de mai pour le mois d'août. On a trouvé une très belle maison juste à côté de la mer. Très belle chambre, très belle salle de bain, très belle salle à manger pour 10 personnes, avec une piscine, un étage, une grande terrasse.
C'est une villa.
Hein. Ah bah 2800 euros la semaine, effectivement, ça reste des beaux biens. Donc, mais c'est pour ça qu'on s'était rassemblés à beaucoup pour pouvoir se permettre de s'offrir ça. Donc on a contacté le propriétaire via Abritel. C'est comme Airbnb ou des choses comme ça, voilà, un site de location de vacances. Le propriétaire nous a demandé de passer directement par une autre adresse email puisque le site Abritel n'était pas à jour sur sa maison. L'adresse email semblait fiable puisque c'était homeway.com@france-reservation.com. On est tous trentenaires, on bosse tous dans les nouvelles technologies, il n'y en a pas un qui a fait le lien. Et donc effectivement, on nous a confirmé le 4 juin que notre réservation était en cours et qu'il fallait verser 3800 euros pour valider cette confirmation. Ce qu'on a fait. Et nous avons essayé donc de joindre le propriétaire pour avoir un petit peu plus d'informations pour notre arrivée, etc. Et nous n'avons plus jamais une nouvelle. Nous n'avons reçu aucun contrat, rien du tout. Alors il n'y avait pas de numéro de téléphone, donc on est passé par la plateforme Abritel qui nous a dit qu'il n'y avait aucune réservation à notre nom. Et donc ils nous ont averti qu'effectivement on était passé par une annonce frauduleuse. On s'est douté de rien puisque tous les emails que l'on recevait et qui décrivaient la maison, etc., c'était tout à fait cohérent. On a même fait des recherches sur Google Maps. La maison existait bien, c'était très bien écrit avec tous les restaurants à proximité. Donc on pouvait vraiment pas se douter que c'était une arnaque. On a reçu un descriptif de la maison qui était vraiment très très complet. Donc moi, mon hypothèse, c'est que le compte du propriétaire a été piraté, ce qui nous a permis de nous envoyer les informations qu'il envoie habituellement. Et du coup, on n'a pas pu. On est allé porter plainte, puisque nous n'avons pas pu récupérer notre argent, nous n'avons pas de location de vacances, et Abritel ne nous proposait que 400 euros
de compensation
forfaitaire. 400 euros sur 3800, ça fait un peu léger. Le commissaire n'était pas du tout surpris, parce qu'apparemment ça arrive très souvent, et il me disait que, bon, en moyenne, ça, si je portais plainte, ça mettait à peu près 5 ans à ouvrir l'enquête et que de toutes les façons, ils ne retrouveraient jamais les faussaires puisque le compte en fait, sur lequel on a versé l'argent était déjà fermé. Donc ils brouillent les pistes en envoyant l'argent un peu partout et ni les assurances bancaires, ni Abritel, ni personne n'a pu récupérer l'argent.
Est-ce que vous êtes partis en vacances quand même cet été-là ?
Alors oui, on a eu de la chance de quand même trouver une maison à Osgore, donc là où on voulait, mais qui avec un standing totalement différent, à 3 km de la plage. Et puis du coup, on n'avait plus les moyens parce qu'on avait perdu tout l'argent qu'on avait consacré au budget. Donc non, ça a été des vacances un peu fichues en l'air quand même. Voilà.
Je me dis que si une bande geek trentenaire se sont fait avoir, qu'est-ce que ça doit être pour les personnes plus âgées ? Ma mère me parle alors d'une de ses amies qui aurait été victime d'une arnaque en ligne. Elle s'appelle Catherine, elle a 77 ans, elle est veuve. Je décide d'aller la voir.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais.
Oui.
Non.
Merci Catherine.
Merci et toi ?
Ouais. J'ai été, c'est de ma faute en fait, j'ai appuyé un jour sur Facebook, invitation. C'était un homme qui proposait, il y a plus d'un an, et cet homme m'a semblé intéressant, mais je lui ai tout de suite dit, vous n'êtes pas mon genre. Un peu comme Proust avec Odette, vous n'êtes pas mon genre, mais comme vous n'êtes pas mon genre, on peut quand même essayer. C'est très très curieux déjà. Je trouvais qu'il était moche. Il y avait une photo, il faisait un peu peur déjà. C'est ça qui est curieux. Il disait qu'il avait 58 ans, c'était à peu près ça, oui, c'était bien, c'était ça. Un peu rond, un petit peu... mais un visage un peu dur quand même. Mais je crois que ça peut passer pour plein de femmes, je crois. Parce que dès que je lui ai dit que j'avais plus de 70 ans, il m'a dit que c'est égal et tout ça. Donc ça m'a même donné envie de lui donner mon âge exact.
Donc c'est ce 77. Que t'as fait.
Donc c'est ce que j'ai fait. Et il m'a dit, ça m'est égal complètement. Et à partir de là, on a commencé à parler, à nous dévoiler. Lui me disant que sa femme l'avait quitté et qu'il élevait ses deux enfants, dont un ado, tout seul, mais qu'il leur faisait à manger. Donc, si tu veux, par rapport à une femme, il a tout de suite compris qu'il y avait une faille, que j'entrais très bien dans cette faille. Un homme seul qui s'occupe de ses enfants, deux garçons, j'ai trouvé ça génial. Mais bon, il paraissait tellement sympathique en écrivant. On s'est écrit tout de suite. À un moment donné, au bout de quelques semaines, il n'a plus répondu. Et comme il avait son numéro de téléphone, c'est moi qui l'ai relancé. Il y avait déjà, au bout de deux semaines, un besoin de continuer d'écrire. Il m'avait déjà pris sous son emprise. C'est un peu une hypnose. Et il insistait pour dire « je t'aime, je vois que tu es une femme extraordinaire, j'ai jamais connu une femme aussi extraordinaire que toi, je sens que c'était l'amour de ma vie, enfin voilà. » Et moi je rigolais en moi-même, mais j'abondais dans son sens en lui écrivant, alors que moi-même, dans ma conscience, je savais que j'irais pas jusqu'au bout de ce qu'il me disait. Parce qu'il me disait, tu vas vivre avec moi.
Mais tout ça, c'était par écrit. Vous envoyez.
Tout par écrit. À un moment donné, j'ai dit, ça serait bien qu'on puisse se téléphoner plus tôt. Et, oh, c'est pas commode, ça marche pas. Soi-disant, ça marchait pas. Bon, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Et moi, j'aime bien écrire comme ça, j'aime bien écrire. Donc, on sait, mais je me suis complètement dévoilée, lui aussi. Mais c'était jour et nuit. À 4 heures du matin, et il pouvait, je laissais mon smartphone ouvert, et quand j'entendais un tic, je le prenais, et on parlait. On a parlé de la vie. C'était des choses intéressantes, même. C'était un peu philosophique, par moments. On dialoguait sur beaucoup, beaucoup de choses de la vie. Je me sentais très jeune. C'est ça qui est curieux. Comme si j'avais 50 ans, en fait. On a fait une relation vraiment assez forte, hein.
Virtuel, toujours virtuel.
Toujours virtuel, toujours, toujours, toujours. Je lui mentais aussi. On jouait. Et un jeu comme ça, c'est assez amusant quand même. Je lui faisais croire aussi que j'allais vivre avec lui. Alors que dans mon idée, moi je voulais juste le voir un petit peu comme ça et puis c'est tout. Tenir quelqu'un dans mes bras, faire l'amour avec lui, c'est vrai, vraiment. Mon mari était décédé depuis quelques années. J'ai eu un besoin de faire l'amour avec quelqu'un. Et c'est pour ça que, en fait, je me suis lancée là-dedans. Et comme c'était les vacances, c'était au mois de juin, en fait, je suis allée voir beaucoup, beaucoup de personnes cet été-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je lui racontais où j'étais, ce que je faisais, quels étaient les gens. Je suis allée chez mon fils, je lui parlais de mes petits-enfants, et je me suis totalement dévoilée. Je racontais tout, 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 tout. Et je sentais quand même que lui, c'était pas sincère. Mais par moments, j'étais convaincue quand même. Et à un moment donné, il devait venir à Rouen. On avait tout calculé, tout pris. Et il me dit, le jour où il devait venir, il écrit, j'ai eu un accident de voiture, je suis à l'hôpital, dans le sud de la France, très très loin. Et je souffre énormément. Et le médecin, le chirurgien ne veut pas m'opérer parce que j'ai plus d'argent. Mes enfants sont partis au Canada et j'ai tout perdu, mes papiers. Je lui dis, c'est pas possible. Enfin, il me racontait ça et j'étais sûre que c'était pas possible. Et il me dit, il me faut 1000 euros parce qu'autrement, il m'opère pas. Donc, et moi, j'ai bien dit, mais c'est pas possible. En France, on opère sans, quand on souffre et même quand on souffre pas, l'hôpital est gratuit. Et il me dit, non, c'est pas possible, cet homme-là. Il me demande en plus. Donc, c'est bon. Et puis, je lui écris, je sais que ce n'est pas possible, mais je vous envoie quand même les 1000 euros que vous me demandez. C'est vrai que j'y ai cru quand même. Mais tout en lui écrivant, même si je fais une bêtise, je la fais quand même. J'avais le sentiment que si j'arrêtais là, je ne pourrais plus écrire. Et que notre relation était terminée. Et j'avais besoin d'écrire.
Mais comment tu lui as envoyé l'argent? C'est passé par où?
Lorsqu'il m'a demandé la première fois, c'est que ça passe par Western Union. Que j'aille donc dans un café à Rouen et que j'essaie de trouver quelqu'un qui pouvait me envoyer de l'argent par Western Union. Alors je suis allée à Rouen, je suis allée dans un endroit où il y avait marqué Western Union. Et là, la personne m'a dit, non, ne faites pas ça, ce sont des arnaques, il faut pas faire ça. Donc je suis revenue, je lui ai réécrit. Et je lui ai dit que ça marchait pas par Western Union parce que c'était des arnaques. Je lui ai dit exactement ça. Et il m'a dit, mais c'est pas possible. On a continué à se parler. Et quelques temps après, peut-être le lendemain, il m'a réécrit en me donnant un numéro de compte, le nom de son soi-disant chirurgien et le compte sur lequel fallait que je mette cet argent. Donc je l'ai fait. Et j'ai gardé les numéros de compte sur lesquels j'avais mis...
Voilà.
J'ai les numéros de compte, mais je ne suis jamais allée à la police pour le dire. Oui, Moulin Jean-François. Alors c'est là, il y a Bécu, je crois que c'est justement... Il me semble que c'est un endroit... Je crois que c'est un paradis fiscal. Il y a un numéro, j'ai tout.
Oui,
même
il y a tous les références,
les jours où j'ai envoyé.
T'es pas allé porter plainte?
Alors, je suis pas allé porter plainte, non. J'ai la honte d'aller raconter. Et puis ensuite, je me suis dit, le temps passant, qu'est-ce que ça va donner? De toute façon, je récupérerai pas mon argent. Et il m'a redemandé de l'argent en disant qu'il était toujours à l'hôpital et qu'il lui fallait encore de l'argent, que le chirurgien demandait toujours plus. Mais je lui ai dit, c'est pas possible, mais je prenais l'avion pour partir à l'étranger. Et j'ai renvoyé 1000 euros encore. Et au bout de quelques heures, je me suis dit, c'est idiot ce que j'ai fait. Et quand j'ai voulu arrêter, parce que quand on fait ça le matin, on peut bloquer ce qu'on a envoyé. On peut bloquer jusqu'à 16 heures. Et quand j'ai voulu, et je pouvais plus bloquer, je pouvais plus ouvrir mon téléphone. J'avais plus de réseau, donc j'ai pas pu arrêter. Alors quand il a redemandé une troisième fois, et j'ai commencé à dire que c'était pas possible. Et lui, alors là, pendant des mois, j'ai été harcelée. Ma seule réponse, c'était « rendez-moi mon argent », parce que j'avais compris, en fait, que cet argent-là partait sur un compte qui allait certainement dans un paradis fiscal.
Comment t'as compris ça?
J'ai regardé un peu son virement. Et j'avais pas regardé avant. Ou alors, c'était des numéros de téléphone aussi. Et les numéros de téléphone, de temps en temps, on peut regarder d'où ils viennent. Et c'était à 260, et je me suis dit « ça, c'est l'Afrique ».
Voilà. Mais alors quand ça s'est arrêté, ça a été une tristesse pour toi?
Non, pas du tout. Au contraire, un soulagement. Un soulagement, mais une honte. Je ne pouvais pas le dire. C'est une humiliation d'avoir pas compris que c'était une arnaque, une escroquerie.
Tu penses que tu as été amoureuse à un moment?
Oui, je crois. Oui, absolument. C'est fou quand même, ça fait mal. C'est pour ça qu'il faut que ça soit dit. C'est vraiment, ça fait très mal. Je crois que ça, c'est très important. C'est, oui. C'est presque à pleurer, toi, maintenant.
Ben oui.
Ben, c'est pas grave, hein. C'est bien. Au contraire, il faut pleurer. Donc.
Qu'est-ce qui fait le plus mal, d'après toi? C'est d'avoir été trompé, d'avoir été...
D'avoir été trompé. Oui, je crois que c'est ça. Oui. C'est pas de pas avoir tenu quelqu'un dans ses bras. C'est vraiment l'humiliation. De se dire, comment j'ai pu être aussi bête? Comment j'ai pu croire, être amoureuse de rien, d'un homme, d'une photo en fait. D'une photo qui ne me plaisait pas au départ. Il faisait ce qu'il voulait de moi.
Catherine a peut-être été victime d'un brouteur. Brouteur, c'est le nom donné aux professionnels de l'escroquerie sentimentale sur Internet, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Ils bénéficient d'une certaine immunité et s'exposent sans aucune retenue sur les réseaux sociaux à l'image du plus réputé d'entre eux.
Vous êtes sur la messagerie du commissaire CB600. Veuillez lui laisser un message après lui.
un dénommé commissaire 5500.
L'homme, Planosa, a profité de l'occasion pour faire des folies.
Millionnaire.
Il a déversé plusieurs billets de banque sur les serveurs et autres personnes.
Qu'on voit dans une vidéo YouTube distribuer des liasses de billets en boîte de nuit. Et dont on chante les louanges, comme on le fait avec les plus célèbres mafieux d'Amérique latine.
Et j'ai compris à ce moment-là vraiment que c'était pas un homme, mais que c'était une bande. Et vraiment, à un moment donné, j'ai eu peur justement qu'il fasse du chantage. Quand il m'a redemandé une troisième fois 1000 euros, 1500 même, j'ai dit non. Et là, je me suis dit, pourvu qu'il n'aille pas, il savait très bien où habitaient mes enfants. Et c'est vrai que je me suis inquiétée énormément. Mais j'ai tenu bon.
Il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant j'y paierai cher pour revivre un seul instant. Pour qu'on retrouve soudain la magie d'un matin et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser t'embrasser sur la joue.
C'était Arnaque en ligne, quelques brebis, un reportage d'Anaël Verzo, réalisé par Clémence Grosse, l'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Aurélie Marseille. Merci à Catherine et à Erika.